BFM Radio.
Bonjour à tous, les mystères de l'aviation, nous allons étudier ensemble deux affaires aujourd'hui. Que s'est-il passé avec le MH370 en 2014? Des recherches sont actuellement en cours pour tenter de localiser l'épave, jusqu'ici sans succès. Mais cette disparition énigmatique résonne avec un autre drame, celui du crash de la Caravelle entre Ajaccio et Nice en 1968. Je sais, Dominique, que c'est un dossier auquel vous êtes particulièrement sensible et vous nous expliquerez pourquoi. Et avec nous pour en parler, nous avons le général François Daoust, ex-directeur de l'IRCGN. Bonjour et Gérard Felzer, consultant aéronautique pour BFM TV. Merci tous les deux d'être avec nous. Mais avant cela, Sabina Eklasova, avec nous, vous allez nous expliquer les trajectoires de ces deux avions et les zones de recherche concernées. D'abord, le plus récent, le vol de la Malaysia Airlines.
Oui, alors c'est le 8 mars 2014 que le MH370 disparaît avec 239 personnes à bord. Nous avons reconstitué son itinéraire, regardez. À minuit 41, ce Boeing 777 de la Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur direction Pékin. À 1h30, l'avion disparaît des radars civils, plus aucun signal. Les données radars et satellites définissent plusieurs zones de recherche, d'abord en Asie du Sud-Est, puis très rapidement vers le sud de l'océan Indien. C'est dans cette zone que se concentrent les recherches menées notamment par les autorités australiennes pendant 3 ans jusqu'en 2017. Ce que l'on retrouvera ensuite, ce sont uniquement des débris, mais à des milliers de kilomètres du lieu supposé du crash. Regardez sur les côtes africaines, la Réunion, Mozambique ou encore en Afrique du Sud. Selon les dernières recherches, la zone où pourrait encore se trouver l'épave est estimée à 15 000 km². Cela représente environ 142 fois la surface de la ville de Paris.
Mais ce mystère, Sabina, rappelle un autre drame aérien plus ancien survenu cette fois-ci en France.
Oui, c'est ça. C'est le 11 septembre 1968. Une caravelle d'Air France assure la liaison Ajaccio-Nice avec 95 personnes à bord. L'avion décolle de Corse à 10h10. À l'approche de Nice, à 10h30, l'équipage signale des problèmes. Le dernier contact radio est enregistré à 10h33, signalant un feu à bord. Et donc, le signal a été perdu à 10h34. À environ 27 km des côtes au large du cap d'Antibes. L'appareil disparaît sous l'eau et repose donc à 2300 mètres de profondeur.
Merci beaucoup Sabina pour ces explications. 95 personnes meurent donc dans le crash de la Caravelle. 239 personnes disparaissent à bord du MH370. Ce sont donc deux catastrophes aériennes qui nous intéressent aujourd'hui, séparées par près de 50 ans, mais toujours marquées par des zones d'ombre. Alors, avec nous mes deux invités, donc le général Daoust et Gérard Felzer. D'abord, la Caravelle d'Air France qui effectuait ce vol à Ajaccio-Nice, l'épave a été localisée, Gérard Felzer, en octobre dernier.
Oui, en fait, il y a des zones d'ombre. C'est pas tout à fait la même chose, les deux cas, le Malaysia et la Caravelle. Parce que pour le Malaysia, le mystère reste entier, on va sûrement l'aborder, mais pour la Caravelle, on est à peu près sûr de ce qui s'est passé.
Mais il y a 50 ans d'écart.
D'une part, et puis d'autre part, on a des doutes sur les procédures qui ont été appliquées à l'occasion.
Alors, montrez-moi l'objet avec lequel vous êtes venu.
Alors voilà, ça c'est la Caravelle. Mm-hmm. Alors, la particularité, j'ai volé sur celle-là, d'ailleurs, c'est celle qui a été accidentée, le Hôtel Bravo.
Volé, vous avez piloté.
J'ai piloté, oui. Mm-hmm. Un avion qui était en avance sur son temps avec une particularité, c'est qu'il y a les réacteurs à l'arrière. Si bien que quand on est dans le cockpit, on n'entend pas le bruit du moteur. Et en plus, ils sont assez performants. On a suspecté un incendie toilette qui se situe au niveau des réacteurs à l'arrière. Mm-hmm. Qui aurait propagé le feu et qui aurait fait perdre le contrôle de l'avion. Or, il s'est passé entre les deux messages et l'extinction des signaux, mm-hmm. Radio en tous les cas, 5 secondes. 5 secondes ne peut pas expliquer qu'il puisse y avoir une explosion en dehors d'un missile. C'est ce qui paraît être le plus crédible aujourd'hui.
Alors, on va y revenir, mais pour ceux qui sont nés après ce crash d'avion, et il y en a beaucoup parmi nos téléspectateurs, voici quelques éléments de réponse avec Pierre-Louis Bousset.
Ce 11 septembre 1968, c'est sous une météo dégagée et ensoleillée que le vol Air France 1611, venu d'Ajaccio, entame son approche de l'aéroport de Nice. Une destination que ses passagers n'atteindront jamais. L'avion s'écrase en mer, causant la mort des 95 personnes à bord. Comment expliquer une tragédie de cette ampleur ? Après 5 ans d'instruction, l'enquête conclut à un feu d'origine indéterminée à l'arrière de la cabine. Une hypothèse à laquelle ne croient pas les proches des victimes.
Nous voulons la vérité toute vraie.
Des gens vont se poser sur la Lune. On n'est pas capable de nous dire pourquoi 95 personnes sont mortes.
Une autre théorie va faire surface. L'avion aurait été accidentellement abattu par un tir de missile de l'armée française. Une option balayée par les autorités de l'époque.
Il ne faut pas oublier que l'avion a volé 5 minutes après que le premier incident générateur final de la catastrophe se soit produit.
Mais cette théorie va s'étoffer au fil du temps, notamment par les multiples témoignages de l'époque accréditant la thèse du missile, dans une enquête où l'armée française a été pointée pour son manque de coopération.
On espère toujours que ça se dévoile. Pour faire ouvrir le secret défense, c'est très, très, très difficile.
L'épave a pu être retrouvée à 10 km du Cap d'Antibes lors d'une campagne de fouilles en octobre dernier. La question est désormais de savoir si les réacteurs de l'appareil, au cœur du mystère, pourront être repêchés.
Alors, on a les conversations entre la tour de contrôle et l'équipage. À 10h31, la tour de contrôle reçoit ce message. J'ai le feu à bord, on va se cracher, c'est sûr. Autorisation est donnée à l'équipage de prendre la route la plus directe et priorité à l'atterrissage, répond la tour de contrôle. Et à 10h32, dernier message de l'équipage, nous sommes en vue du sol et bonne visibilité. Sauf que, comme vous le dites, une minute plus tard, la tour de contrôle perd le contact. On est à 20 miles d'Antibes. C'est oui, ça, la chronologie.
En fait, on est à 35 km, on est à entre 5 et 7 minutes. Donc, il y a eu un choc, probablement avant, et on a vécu en direct quasiment les dernières secondes du pilote. Donc, il y a des zones d'ombre. Il faut voir le contexte de l'époque aussi. Hein. On était déjà dans la guerre froide, il y avait eu des affaires, l'affaire Ben Barka, c'est pas le général qui va me contredire là-dessus, il y a eu un petit peu de barbouze, il y avait aussi Pierre Messmer qui était reconnu comme un grand combattant, etc., qu'on n'allait pas le contredire, du moment qu'il lui a dit il n'y avait pas de missile ce jour-là, alors que...
Ça c'est la thèse officielle.
C'est la thèse officielle, alors qu'on a retrouvé des pages arrachées dans le journal de bord, notamment du Suffren, le bateau qui a été chercher les épaves.
La frégate qui croisait à côté.
Exactement. Et donc, il s'est installé un petit peu des doutes qui se sont avérés au fil des années, jusqu'à ce que le président Macron a levé l'interdiction d'aller sortir des témoignages.
Alors, on va y revenir, mais avec nous, nous avons Mathieu Paoli, qui est en direct de la Corse. Mathieu Paoli, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Association des familles de victimes de ce crash de la Caravelle. On l'indique, vous avez perdu vos deux parents dans ce crash et vous cherchez la vérité depuis toutes ces années. En vain, d'abord, une question relativement personnelle. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez perdu vos deux parents? Et qu'est-ce qu'on vous a dit à l'époque?
J'avais 24 ans. Et ce qu'on nous a dit à l'époque, les militaires ou les personnes de l'État, ils nous ont dit que c'était un feu à bord, comme ça avait été dit dans le début de l'interview.
Et quelle est la thèse la plus plausible, selon vous, après toutes ces années? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de silence et tant de mystère?
Tant de mystère. Je vais vous donner quelques indications de témoignages sur les 100 témoins que nous avons reçus. Je vais vous parler de 5 témoins très audibles et très crédibles. Parler d'un promeneur qui était le long des côtes et qui regardait l'évolution des poissons avec ses jumelles. Et lorsque la caravelle est passée au-dessus de lui, c'est là justement qu'il a vu une lumière bleue rentrer dans le réacteur gauche. Ensuite, un autre témoin qui justement était preneur de son à Antibes, à l'ORTF, qui était sur place en mer et qui regardait justement ramasser déjà ce qui était ramassable, des débris, des morceaux de corps, enfin, il y avait vraiment quelque chose d'important. Et justement, quand il est retourné au studio, enfin, faire son montage
qu'il avait à la station, exactement, pour pouvoir faire son reportage.
Voilà, faire le reportage. Et ce jour-là, il y avait aussi un reportage qui était fait au Montagel, c'est-à-dire les militaires étaient à l'intérieur, justement, des studios du Montagel, parce qu'il y avait une opération poker qui avait lieu ce jour-là. Et lorsque ce preneur de son montait le film avec les deux, c'est-à-dire celui du Montagel et celui qu'il avait récupéré en mer, c'est là justement qu'il a vu rentrer des personnes, des renseignements généraux, qui ont saisi la bande-son parce qu'on avait entendu, enfin, ils avaient entendu, oh merde, on l'a perdu, on l'a perdu.
Alors, oh merde, on l'a perdu, on l'a perdu. Comment est-ce qu'on peut analyser cela, monsieur Paoli? Avec nos invités, je vais me retourner vers le général Daous et Gérard Felzer. Vous restez avec nous. Comment est-ce qu'on peut l'analyser? On l'a perdu, on l'a perdu. On est pas loin du secret défense. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne doit pas savoir.
Alors, secret défense, il y a beaucoup de choses qui sont occultées. Et les interprétations, elles peuvent aller dans tous les sens. C'est-à-dire, on a perdu l'avion.
Il y en a deux.
Voilà, exactement. Et où on a perdu le missile. Voilà. Là-dessus, ce qui serait intéressant, c'est qu'avec la levée du secret défense, c'est d'avoir toutes ces bandes. Parce que ça soit les films et que ça soit tout ce qui est audio, là, ça peut être décrypté. Le bruit d'un moteur de missile est très caractéristique. C'est une signature sonore. Et l'impact sur un objet volant, en l'espèce, l'avion, est très caractéristique aussi. Ce qui veut dire qu'on aurait une réponse très rapidement. Mais encore faut-il récupérer ces éléments qui pourraient être versés au dossier pour les familles.
Alors, exit l'hypothèse de l'incendie. Gérard disait tout à l'heure, feu toilette à l'arrière de l'avion. On rappelle quand même qu'à l'époque, tout le monde fumait dans les avions.
C'est vrai.
Mais tout le monde fumait dans les avions.
C'est vrai.
On faisait des vols transcontinentaux, et les gens fumaient pendant 15 heures, même le cigare. Mais les hôtesses, les PNC étaient formées avec les extincteurs pour éteindre ces...
Qui n'ont pas été utilisés, les extincteurs.
Qui n'ont pas été utilisés. Donc, exit, ça veut dire que on va vers l'hypothèse du missile. On entendait M. Paoli qui nous disait tout à l'heure le témoignage du monteur de l'ORTF qui entend « on l'a perdu, on l'a perdu ».
La lumière bleue.
La lumière bleue. Il y a aussi un témoignage, une lettre de confession d'un garçon qui s'appelait Michel Latti, un appelé du contingent, qui dit on va faire rédiger un courrier classé défense ultra confidentiel faisant état d'un missile désarmé tiré depuis l'île du Levant qui aurait touché la caravelle. Ce garçon est mort depuis. On parle des renseignements généraux qui sont venus saisir la bande. On parle de documents falsifiés.
Mais moi, j'ai une
de zone X, de la zone d'exercice. Donc maintenant, il faut poser des questions à l'armée.
Mais est-ce que vous pensez que l'armée, par exemple, a pu récupérer des débris? Parce que l'épave, elle a été localisée. Il y a des choses qui sont remontées. Est-ce que l'armée aurait pu récupérer des débris grâce à la frégate qui croisait en Méditerranée et les dissimuler aux familles pour éviter d'approcher de la vérité? C'est possible, ça?
Déjà, on peut se poser la question de savoir comment un avion civil, ou les débris d'un avion civil, atterrissent à Toulon, c'est là qu'on les a mis, dans l'enceinte de l'armée. Donc, alors que ça a pu être une enquête diligentée par l'aviation civile. Donc là, il y a un gros doute qui s'installe. Évidemment, il n'y a pas de preuves, mais enfin, ça converge quand même suffisamment. Et puis... et effectivement, la bande vidéo sono du contrôle aérien, on a mis 6 mois pour la récupérer, on ne sait pas pourquoi. Il y avait tout ça dans une ambiance un petit peu secret militaire. D'ailleurs, c'est une ambiance du passé. Heureusement, ça a changé aujourd'hui. Mais en tous les cas, quand vous faisiez une bêtise, par exemple, vous alliez voir votre supérieur. Première question, est-ce que quelqu'un t'a vu?
Donc, c'était pas vraiment la transparence, quoi.
Non, mais en fait, il y a un ensemble d'éléments qui convergent vers cette solution. Pourtant, je suis pas un adepte de la théorie du complot, mais en tous les cas, ça converge sérieusement.
Alors, on a Paul Solacaro qui est en direct avec nous, qui est l'un des avocats des parties civiles. Merci d'être avec nous. Combien de familles et de victimes représentez-vous aujourd'hui? Et pensez-vous qu'on saura un jour la vérité autour de la table? Visiblement, l'hypothèse du tir militaire est aujourd'hui la plus plausible.
Oui, bonjour. Alors, combien de familles? Ce sont les familles des 95 victimes
de cette tragédie qui se sont regroupés en association. Et c'est au nom de l'association et des frères Paoli, notamment Mathieu, que les procédures ont été diligentées. Est-ce que l'on aura un jour la vérité? Moi, je le dis depuis des années, c'est un dossier pour lequel il a fallu se battre sur trois fronts. Le front de, on va dire, médiatique, qui est aujourd'hui quasiment acquis parce qu'il y a aussi un certain nombre de médias et de journalistes qui ont toujours cru à la thèse du missile et qui l'ont soutenu, comme d'ailleurs vous le faites aujourd'hui à juste titre. Il y a le front judiciaire qui était un front extrêmement compliqué parce que on a eu longtemps eu la difficulté de la prescription des faits qui remontent à 1968 avec une ordonnance de non-lieu rendue par les premiers juges en 1973. Heureusement, en 2011, parce que nous sollicitons Éric de Montgolfier, qui est à l'époque procureur de la République de Nice, et que nous lui apportons des éléments, il y a une enquête qui est ouverte pour recel de soustraction de preuves et dissimulation de preuves. C'est aujourd'hui une enquête et une instruction qui sont beaucoup plus élargies sur les investigations. On aura, à l'issue de l'instruction et d'information judiciaire, très vraisemblablement une ordonnance de non-lieu, puisque aujourd'hui on ne peut plus traduire qui que ce soit devant une juridiction de jugement. Et puis il y a aussi la question de la responsabilité de l'État à l'époque, et l'État n'est pas pénalement responsable. Mais on aura quand même une ordonnance de non-lieu qui reprendra la thèse que nous soutenons depuis des années et qui sera appuyée, qui sera consacrée dans un document judiciaire, donc une ordonnance rendue par un juge, qui est la thèse du missile, qui est la thèse qui prévaut. Et enfin, on a une troisième phase, qui est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec l'association des familles des victimes et les frères Paoli, qui est une phase politique. Parce que pour que cette affaire soit terminée, définitivement terminée, et que les familles puissent faire leur deuil, il faudra une reconnaissance, après la reconnaissance judiciaire, une reconnaissance politique, avec un responsable de l'État, du côté de l'Élysée ou du ministère des Armées, qui reconnaissent enfin que ce qui s'est passé ce 11 septembre 1968, ça n'est pas un incendie dans la cabine toilette, mais bien un tir de missile.
Mais qu'est-ce qu'il a promis le président Macron, du coup, ces derniers mois, ces dernières années? François Hollande, il avait envisagé la déclassification, mais Emmanuel Macron, il a fait quoi?
Alors Emmanuel Macron, il a ordonné la levée du secret défense dans le cadre de ce dossier, mais aussi dans le cadre de bien d'autres dossiers, puisqu'il a exigé la levée du secret défense de toutes les affaires à compter, je crois, de la guerre d'Algérie jusqu'aux années 70, qui englobait donc les documents relatifs à l'affaire de la Caravelle. La difficulté du secret défense, c'est que quand vous savez qu'on a pénétré dans les locaux de l'ORTF pour se saisir de bandes-son qui vraisemblablement ont été dissimulées, soustraites en tout cas, et peut-être détruites, quand vous savez qu'il y a des rapports classifiés secret défense qu'on n'a jamais retrouvé, puisque c'est le témoignage de Monsieur Latty, hein, dont on a fait état, je crois, il y a quelques minutes. On a tendance à penser qu'il n'était pas forcément utile d'opposer le secret défense, puisque tous les éléments étaient détruits. Ça, c'est le sentiment que nous avons. Quand vous savez, en plus de cela, qu'il suffisait de tout simplement remonter les 85% de l'appareil qui gisent aujourd'hui encore au fond de la mer Méditerranée et que ça n'a jamais été fait, en définitive, il n'était pas très utile d'opposer le secret défense. Il suffisait tout simplement de ne rien faire, voire de détruire les preuves. Et cela suffisait à ce que la vérité n'éclate jamais. Donc il nous a promis, M. Macron et son directeur de cabinet, M. Stroza, nous ont surtout promis des moyens mis au service de la justice. Et il faut dire que ces moyens, ils sont mis parce qu'il y a une véritable volonté judiciaire de la part des magistrats, de la part du parquet de Nice et de la part aussi, il faut le dire, des services de gendarmerie qui ont fait un travail absolument extraordinaire dans le cadre de ce dossier. On a dit, je crois, sur ce plateau que les protocoles et les procédures n'avaient pas été respectés. Je pense que les services de gendarmerie ont tout de suite compris que ces protocoles et ces procédures n'avaient pas été respectés et ça les a mis sur la bonne voie. Donc, les moyens ont été mis au service donc des enquêteurs et de la justice. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'aller chercher au fond de la mer Méditerranée les restes de l'appareil. Donc, ce sont des promesses qui ont été tenues.
Ok, merci beaucoup, Maître Solacaro. Merci d'avoir été avec nous.